Bonsoir. Dans les années 60, en France, les réfugiés espagnols, portugais, algériens avaient connu les bidonvilles. 45 000 personnes qui avaient attendu la construction de barres HLM pour pouvoir s'installer sous un toit en dur. Et voilà que 50 ans plus tard, aux périphéries des villes, les baraquements, les campements de tôles, de plastique ont repoussé. On estime aujourd'hui à peu près 15 000 le nombre de personnes qui y survivent. Un peu plus de 500 campements, 500 bidonvilles répartis sur toute la France. Des populations souvent jeunes, la plupart du temps venues de Roumanie ou de Bulgarie. 15 000 réfugiés pris entre le marteau et l'enclume, entre l'insalubrité et la peur de l'expulsion, entre les risques d'incendie, d'inondation et la crainte de voir débarquer les CRS et les pelleteuses. Pratiquement pas une semaine en France sans un démantèlement de bidonvilles.
La police s'est cassée le mobilon de ma mère. Et là, ma mère, elle est malade, et j'ai fait la dialyse. Et j'ai resté sur la rue, sur tous les enfants. J'ai resté de l'automobile en tout. Et j'ai resté comme ça, sur la rue.
Alors on va essayer de ne pas être manichéen ce soir, pas les gentils associatifs d'un côté et les méchants préfets de l'autre. On va avec vos questions à nos invités essayer de dresser un état des lieux et voir que les solutions, les alternatives aux bidonvilles existent, qu'il peut y avoir une vie sereine et pérenne après le campement. Nous recevons pour cela Sylvain Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Depuis 2014, vous êtes le délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès au logement. Nous accueillons ce soir également le maire communiste d'Ivry-sur-Seine, Philippe Bouissou, bonsoir.
Bonsoir.
On détaillera avec vous quelques-unes des solutions que vous expérimentez. Elles existent. Vous nous le confirmez pour un relogement de la population rome après le bidonville. Et puis nous sommes en ligne jusqu'à 20h avec Dominique Planck, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le coordinateur du collectif Solidarité Rome pour la métropole lilloise, ancien conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais et ancien adjoint au maire de Lille. Alors pourquoi démanteler un bidonville, en expulser ses occupants et surtout que proposer ensuite? On attend vos questions 01 45 24 7000, soyez les bienvenus.
Arnaud Bousquet, le téléphone sonne.
Alors avec nos invités, on va tout d'abord dresser un constat, les évacuations de ces camps de fortune. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans une impasse, Sylvain Mathieu, parce que les démantèlements se répètent, pourtant le nombre de personnes qui y vivent ne diminue presque pas?
Alors tout à fait, vous l'avez rappelé, c'est à peu près 15 000 personnes qui sont présentes dans des campements et des bidonvilles, il y en a à peu près 570, et dans des formes qui sont inacceptable hein, en termes d'habitat, qui pose vraiment beaucoup de problèmes en termes de santé, de sécurité. Et évidemment, le sujet, c'est de savoir comment on sort de cette situation. Alors, ils sont réapparus il y a 15 ans en France, et la première réponse, en fait, ça a été l'évacuation. Et avec le temps, on voit bien que cette réponse uniquement centrée sur l'évacuation, elle n'apporte pas réellement de solution, et elle n'a pas permis de résoudre les problèmes.
Ça ressemble à quoi un bidonville en 2018 en France? Vous en avez dans vos villes respectives, à Lille et à Ivry-sur-Seine. Quelles sont les conditions d'existence de ces populations dans ces camps? Philippe Bouissou à Ivry, il y avait jusqu'en 2015 ce qu'on appelait le plus grand bidonville du Val-de-Marne.
Tout à fait, le plus grand bidonville du Val-de-Marne, qui était au cœur du centre-ville en plus, qui n'était pas dans une périphérie de la ville et qui est aux portes de Paris. C'était un bidonville qui a accueilli jusqu'à 400-500 personnes pendant plusieurs années, qui étaient au pied du RERC, entre un hôpital, un collège, une copropriété, qui posait dans la vie quotidienne du quartier des tas de problèmes. Et nous, on s'est battu jusqu'au bout. Alors quand je dis nous, c'est à la fois la municipalité et les associations. Je pense notamment à l'association Rome Europe, à l'association ivrienne de soutien aux Roms, pour qu'il n'y ait pas d'évacuation sans solution sociale de sortie. Et quand on est arrivé au moment de l'évacuation, en juillet 2015, on avait prévu un dispositif de sortie avec un accompagnement social de très haut niveau. Et c'est comme ça qu'on s'en est sorti. Mais toutes les personnes qui étaient sur ce bidonville n'ont malheureusement pas pu être accueillies dans des sas sociaux tels qu'on les a conçus.
Dominique Planck à Lille, 1 millier de Roms pour le seul département du Nord, 3 fois moins qu'il y a 5 ans, et on le verra, des exemples d'intégration réussie avec de l'emploi, avec des logements. Mais aujourd'hui, à Lille, c'est quoi? Ce sont des plus petits camps disséminés sur la métropole?
Oui, c'est deux camps. Un camp qui est juste à côté de la gare Lille-Europe et en dessous des bureaux de la métropole européenne de Lille avec 150 personnes, et un autre à côté de Roubaix avec une petite centaine de personnes. Mais justement, à cause des démantèlements, sans solution, on se retrouve avec, comme il y a eu le cas il y a une quinzaine de jours à Lille, un camp a essaimé en 4 petits camps, donc avec, c'est-à-dire que les personnes sont toujours là, aucune solution ne leur a été apportée, elles ont trouvé des solutions encore plus indignes, encore plus insalubres, parce qu'elles s'étaient organisées là où elles étaient, même si personne ne souhaite vivre en bidonville, mais là on leur redemande de reconstituer le réseau qu'elles avaient pu constituer dans le bidonville dans lequel d'où elles ont été expulsées.
Vous les rencontrez mais pratiquement quotidiennement, Dominique Planck, à l'année. De quoi vivent, de quoi survivent ces familles?
Il y a des situations très difficiles. On ne peut pas dire qu'il y a une situation dans la métropole lilloise, c'est essentiellement des personnes roumaines. Il y a quelques familles bulgares, mais c'est essentiellement des personnes roumaines. Leur situation est très différente les unes des autres, hein. Aussi en fonction de leur origine. Il y a des gens qui ne savaient ni lire ni écrire, même en roumain, donc c'est compliqué de s'insérer et d'apprendre le français. Il y en a d'autres qui travaillent, hein. Il y a le bidonville dont je parlais à côté, il y a une famille, il y a quatre personnes qui travaillent dans le bâtiment. Elles ont leur carte BTP, là, qu'on a aujourd'hui pour lutter contre le travail au noir, mais elles sont toujours en bidonville parce que l'accès au logement est très compliqué. Des discriminations existent aussi pour les familles roumaines. Et après, il y a d'autres qui vivent de récupération de ferraille. Il y en a qui font la manche, il y en a qui ont des emplois d'insertion, il y en a qui apprennent le français. On a vraiment toute la palette de l'intégration entre ceux qui devraient plus être là puisqu'ils devraient pouvoir avoir accès au logement social ou au logement de droit commun et d'autres pour qui le chemin vers l'intégration n'est pas encore terminé.
Pour lancer l'émission, je vous propose de retrouver Anne, qui nous appelle des Yvelines. Bonsoir Anne, vous c'est un témoignage, vous faites, comme Dominique Planck, partie d'un collectif.
Oui, je fais partie du collectif Rome Yvelines, donc qui est le représentant de Rome Europe dans les Yvelines. Je voudrais interroger Monsieur le délégué interministériel à propos de l'expulsion d'environ 140 personnes le 14 juin dernier à Triel-sur-Seine. Parmi ces personnes, plus de 80 ont accepté l'hébergement d'urgence proposé par la préfecture. Mais au bout d'une semaine, la préfecture n'a poursuivi l'hébergement que de 22 personnes et a mis les 60 autres, dont la moitié d'enfants, à la rue sans aucune solution. Elles ont appelé en vain le 115 qui est saturé. Donc ma question, c'est Monsieur le délégué interministériel, quelles mesures comptez-vous prendre pour reloger ou héberger ces familles qui sont en bonne voie d'insertion? Il y en a plusieurs qui travaillent, qui sont en recherche d'emploi et quasiment tous les enfants sont scolarisés. Enfin, étaient scolarisés jusqu'à l'expulsion parce que, bon, après, ils n'ont plus pu aller à l'école.
Sylvain Mathieu va vous répondre sur ce cas précis ou plus globalement parce que j'imagine que le schéma est bien souvent le même à chaque expulsion.
C'est effectivement une situation qui se rencontre assez régulièrement avec des propositions d'hébergement et des évacuations qui sont basées notamment sur une circulaire de 2012 qui, en gros, organise l'évacuation. Comme je le disais tout à l'heure, la question, elle est celle de dépasser l'évacuation, dépasser une stratégie qui est centrée sur l'évacuation. On a aujourd'hui, avec du recul, on voit que c'est vrai, il y a une sorte d'éparpillement, de fourmillement des campements. C'est pas non plus nécessairement une bonne chose pour pouvoir travailler directement avec les personnes. Et puis, il faut agir globalement. Il faut agir globalement, c'est-à-dire avoir une stratégie territoriale, embarquer tous les partenaires, les associations, les collectivités territoriales, bien sûr, avec le soutien de l'État, et même les habitants. Et ça, on est passé sous un autre régime avec une nouvelle instruction, qui est celle du début de l'année, qui donne la méthode globale pour aborder les questions des campements.
Alors comment ça se passe justement concrètement? Expliquez-nous, on a la chance d'avoir avec nous un élu également. À chaque expulsion décidée, qui se met autour de la table pour préparer l'après? Il y a les associations, il y a les élus, il y a l'État, comment ça se passe? Alors, Philippe Bouissou.
Sur ce sujet-là, d'abord il faut avoir, je dirais, dans le tour de table initial, des opérateurs sociaux compétents. C'est-à-dire des travailleurs sociaux qui vont accompagner, qui vont porter les choses. Nous à Ivry, on a la chance de travailler en lien avec un opérateur social qui s'appelle Alteralia. On a travaillé aussi avec Emmaüs Solidarité, avec une autre association plus modeste qui s'appelle Convivence. Et il faut qu'il y ait des travailleurs sociaux qui soient mobilisés.
Qui anticipent les
questions. Qui anticipent les choses. Et il faut ensuite avoir un lieu, je dirais entre guillemets, d'atterrissage pour accueillir les familles. Nous, à Ivry, on a mis à disposition une gendarmerie désaffectée qui n'était plus utilisée à des fins d'habitat. L'État a construit, je dirais, des bungalows, mais des maisons en bois un petit peu sérieuses, qui permettent d'avoir un débouché et de construire un véritable sas social d'accompagnement de ces familles. Et on a aussi l'expérience d'un petit bidonville plus modeste qu'on a décidé de solidifier, de pérenniser, où on a installé des sanitaires, etc. etc. Et où là, on fait un travail progressif de sortie du bidonville pour aller vers le droit commun.
Un SAS, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est une période transitoire. Donc, combien de familles, par exemple, dans cette ancienne gendarmerie et pour combien de temps?
Aujourd'hui, sur l'ensemble des dispositifs, on a 35 familles qui sont accueillies, ce qui est considérable. Ça fait plusieurs centaines, enfin, plus d'une centaine de personnes. Et il faut rester là le temps où l'accompagnement social est efficace. Et d'ores et déjà, on a une quinzaine de familles qui ont pu intégrer le droit commun, où un des deux parents a un contrat de travail à durée indéterminée, et où, grâce notamment à la mobilisation des contingents de logements sociaux de l'État, on a pu intégrer des familles dans le droit commun.
Dominique Plancalil, comment ça se passe quand vous savez qu'une expulsion est inéluctable, que vous en connaissez la date, l'heure? Comment vous préparez cela avec les autorités et puis avec les familles?
Malheureusement, on ne le prépare pas avec les autorités. Monsieur Mathieu, je suis désolé, mais pour l'instant, dans la métropole lilloise, l'instruction du 25 janvier n'a rien changé. Je parle d'un bidonville ce matin. La police nationale est venue expliquer aux familles qu'elles devaient partir, puisque l'expulsion, le démantèlement aurait lieu la semaine prochaine. Et ce qui risque de se passer, c'est que les familles vont aller se répartir un peu partout où elles pourront dans la métropole. Et le jour du démantèlement, le préfet va venir dire « Ah, c'est dommage, elles sont parties, on aurait peut-être pu leur proposer des solutions ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des stratégies préfectorales d'incitation à l'auto-expulsion qui évitent à la préfecture de prendre en charge ses familles, et on repousse ça à une autre expulsion. L'instruction avait cet intérêt de prévoir d'ajustement d'associer les associations et les familles roms elles-mêmes, hein, qui sont souvent absentes de tous les discours. Là, il y a dix familles qui ont écrit au préfet pour demander à le rencontrer, pour demander avant un démantèlement, pour pouvoir le rencontrer, pour même l'inviter à venir voir leur situation de vie et expliquer ce qu'elles vivent. Pour l'instant, elles n'ont pas eu de réponse. La seule réponse, c'est la police nationale ce matin, leur disant qu'elles allaient être expulsées. Voilà. Donc, je voudrais dire que l'instruction, tout le réseau associatif avait trouvé cette instruction remarquable. Hein. C'est une grande avancée par rapport à la circulaire de 2012 qui ne prévoyait que l'expulsion. Là, on prévoit d'associer tous les services de l'État pour l'intégration. Malheureusement, concrètement, sur le terrain, elle n'est pas appliquée.
On va vous répondre. Sylvain Mathieu, je rappelle que vous êtes délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès au logement.
Alors, l'après-évacuation se prépare avant. Et en l'espèce, là, il y a effectivement des éléments qui sont travaillés, notamment dans le Nord. Hein. Le Nord, il faut rappeler, c'est le cinquième département pour le nombre de personnes qui sont dans les campements. Donc, il y a un problème qui est sensible, mais c'est effectivement préparé avant, malgré ce qui est dit là. Il y a un travail qui avance, notamment avec la métropole européenne de Lille, avec des SAS, exactement comme ça a été décrit avec Philippe Bouissou. Après, ce qui est vrai, c'est que tout le monde a besoin de progresser et d'avancer sur la gestion de ces campements. Il ne s'agit pas juste de dire « je vais faire ». Il y a vraiment des professionnels qui doivent intervenir. Et encore une fois, il faut établir une stratégie de façon à ce que, lorsque l'évacuation est nécessaire, on y reviendra sans doute des fois, elle est nécessaire, ça ne soit pas un jeu de taquins où on passe les personnes d'une commune à l'autre et puis elles reviennent à un moment.
Nous rejoignons Sati qui nous appelle depuis Marseille. Bonsoir Sati, soyez le bienvenu.
Bonsoir, merci. Moi, ma question est très simple. Quel est le prix à payer par ces familles, 15 000 personnes sur le territoire, pour pouvoir enfin s'intégrer? Je connais depuis 15 ans des personnes qui vivent à Marseille et qui sont expulsées chaque année au moins deux fois. Et on est passé pourtant à des phases où l'intégration a été possible, notamment par exemple par l'école, avec une association extraordinaire qui s'appelle l'école au présent et qui intègre des enfants avec de l'argent privé, par des fondations privées, des Médecins du Monde qui est présent, Emmaüs. Le problème, c'est que chaque fois qu'on a construit des choses, eh ben, très vite, au bout de 6 mois, 1 an, dans le dispositif ou dans le bidonville entre guillemets, l'expulsion arrive et finalement on arrive à intégrer que quelques familles. Et on a l'impression que c'est la logique de l'entonnoir. Sur 15 000 familles, on nous parle de 10, 15, 15, 20, mais pas plus. Et alors que c'est 15 000 personnes en tout à intégrer. Et en plus, aujourd'hui, on a tellement fait peur à ces familles qu'il y a une deuxième logique, c'est la logique du plumeau. Et la logique du plumeau, c'est on sait où ils sont aujourd'hui, on peut travailler avec eux collectivement, mais on leur a fait tellement peur, on les a tellement expulsés qu'ils se cachent dans des petits squats, qu'ils se mettent dans des forêts, etc. Donc ça, c'est la dernière, et le dernier élément, c'est quand c'est qu'on va travailler sur le fait que les Français doivent apprendre à accueillir ces personnes. Et parce que, à Marseille, le pire, c'est que les plus pauvres de Marseille, puisque c'est dans ces quartiers-là où ils sont terribles à l'égard de ces populations. Il y a un racisme anti-Roms qui est effroyable, alors que à Marseille, il y a eu dans la presse, depuis qu'ils sont arrivés, un article qui dit bien ce qu'ils font, puisqu'on l'appelait étrangement le gang des poussettes. Ils passent leur journée à fouiller nos poubelles pour ramasser et recycler ce qu'ils peuvent. Et ça, alors que c'est une priorité de l'Europe et de l'État français, je m'étonne aujourd'hui qu'on n'essaye pas d'avoir des solutions globales plutôt qu'à la petite semaine. Voilà, merci.
Merci de votre appel. On va peut-être compléter votre témoignage marseillais par le témoignage de Philippe Bouissou, le maire communiste d'Ivry-sur-Seine. Ce racisme anti-Rom, cette violence latente, vous la sentez, vous les sentez dans votre commune ?
Bien sûr. Je crois qu'il y a ces dernières années, face à toutes ces expressions de misère, une romophobie qui s'est développée dans le pays. Je crois qu'il faut pas le nier, et ce dont témoigne l'auditeur est très vrai. C'est pour ça que moi j'essaye en général d'employer le terme Tzigane plutôt que le terme Rom, parce qu'il est beaucoup plus universel et il réfère aussi aux discriminations importantes dont ces populations ont été victimes. Je le rappelle brièvement, mais elles ont été déportées par les nazis pendant l'occupation, et dans tous les pays d'Europe de l'Est où elles ont vécu, elles ont été maintenues aux marges de la société. Et que ces populations-là aient une difficulté à faire confiance aux populations majoritaires des pays où elles séjournent, ça peut s'entendre. Et il y a un travail de fond à faire sur ces questions, sur lequel tout le monde doit se mobiliser. Le deuxième élément que pointait l'auditeur, c'est les expulsions. Effectivement, les expulsions se rejettent de territoire en territoire, je dirais la patate chaude de la misère, et ça ne règle rien, et ça pousse dans une précarité encore plus grande, et ça peut ouvrir la porte à toutes les mafias, à tous les trafics qui peuvent avoir lieu aussi autour de ces populations fragiles.
Sylvain Mathieu, la théorie du plumeau, c'est un constat que vous partagez, c'est-à-dire que chaque démantèlement, c'est aller grossir le bidonville d'à côté qui sera lui aussi un jour démantelé, etc.
Les évacuations, elles baissent d'année en année. C'est pas du tout satisfaisant, hein. Mais il est clair qu'il y a eu un travail de fond qui est réalisé, qui est en cours, qui doit être accentué pour permettre justement l'intégration des personnes. Et de fait, il y a quand même des milliers de personnes qui ont accédé au logement, qui ont trouvé un emploi. Et si on a une baisse continue maintenant, qui est légère, mais depuis plusieurs années, du nombre de personnes sur le campement, c'est qu'il y a un travail qui est fait, qui est réalisé pour permettre cette insertion. Mais je reprends les deux éléments là qui sont donnés. Moi, je parle pas de Rome, parce que c'est une notion qui enferme les gens dans leur identité culturelle, comme si c'était l'essentiel de leurs problèmes. Ils sont dans les bidonvilles parce qu'ils sont Roms. Non, moi je parle de migration intra-européenne. C'est de la migration intra-européenne avec des personnes qui sont parfois installées depuis longtemps sur le territoire. Et il faut traiter ce sujet-là, non pas parce qu'ils viendraient ils auraient cette identité culturelle, mais avant tout parce qu'ils sont en grande précarité. Et que c'est les solutions qui sont assez classiques, celles de l'accompagnement, celles des SAS ou d'accès direct au logement dans la politique du logement d'abord, qu'il faut mettre en place pour sortir les personnes. Ça prend du temps, ça demande vraiment des professionnels, des soutiens de bénévoles, que tout le monde s'y mette, encore une fois, associations, collectifs, collectivités territoriales et État, mais ça marche.
Dominique Planck, sur la métropole lilloise, avant d'aller retrouver Alain qui nous appelle de Tourcoing et qui a lui aussi un témoignage à nous apporter, donnez-nous quand même quelques solutions durables, concrètes et puis disons-le positives qui existent. Ce sont notamment les villages d'insertion. Comment ça marche et surtout comment on arrive à monter de tels projets ?
Oui, il y a eu une phase en 2010 de création de 5 villages d'insertion par la métropole et plus récemment par la préfecture l'année dernière et un très récemment de villages SAS qui ont permis effectivement avec un minimum d'équipement, soit des caravanes, soit des mobilhomes, mais surtout donc des sanitaires, de quoi faire la cuisine, des douches et surtout un accompagnement social financé par la préfecture de permettre de garantir une sortie vers un logement, soit un logement classique, soit d'autres, mais effectivement de permettre à des familles de plus être à la crainte dans la crainte de l'expulsion du lendemain et d'avoir un accompagnement qui leur permette et qui permette aussi de garantir la scolarisation des enfants. On en a un peu parlé, mais chaque expulsion c'est 6 mois de perdu hein, pour les enfants, alors qu'on sait que l'intégration s'est fait en France depuis toujours par la scolarisation des enfants et le fait que les enfants apprennent le français s'intègrent plus vite au reste de la population. Je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, hein, l'identité rome, elle n'est plus au cœur de l'attention médiatique ou politique ou policière dès que les gens sortent des bidonvilles. Hein. Donc le problème aujourd'hui des roms, c'est d'abord tous les roms aujourd'hui habitent pas en France ou de Tsigane n'habitent pas en bidonville. Ceux dont on parle, ce sont les plus fragiles, les plus précaires, hein, et donc les plus visibles. Donc la question se règle petit à petit. C'est vrai que sur la métropole lilloise, il reste 1000 personnes sur 1 200 000 habitants. C'est ridicule. On comprend pas qu'effectivement on soit encore à se renvoyer la balle d'une commune à l'autre. Il y a un SAS qui s'ouvre début juillet pour une vingtaine de personnes. Il y en a un autre qui doit s'ouvrir pour un petit groupe qui est en bidonville pour 18 personnes. C'est bien, c'est remarquable. Hein. C'est aussi un peu ce qui a été évoqué, ce qui est fait à Ivry. La difficulté, ça a été expliqué par l'auditeur de Marseille avant, c'est les familles ont du mal à comprendre quand elles sont dans un processus d'intégration, de scolarisation, de veiller à ce que tous les enfants aillent tous les jours à l'école. C'est parfois difficile hein, quand vous allez à l'école, quand vous n'avez pas de douche chez vous, que au collège, les autres gamins se moquent de vous parce que vous ne vous sentez pas bon et que donc c'est difficile de retourner le lendemain matin au collège. Toutes ces familles font un effort remarquable et le lendemain, la police arrive aujourd'hui en leur disant qu'il faut partir la semaine prochaine. Elles n'ont aucune explication, il n'y a aucun commandement de quitter les lieux, ça va encore se faire. On a fait condamner en début d'année la préfecture et la ville de Lille pour expulsion illégale, mais une fois que les caravanes sont cassées, elles sont cassées. Donc, il y a encore une fois, moi je regrette et je demande au DIAL d'intervenir pour que les familles roms elles-mêmes, quand elles demandent à être pouvoir reçues par la préfecture, puissent l'être. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Je pense que le sens de l'instruction de janvier, c'est aussi que les personnes concernées, quand elles demandent à être reçues par les autorités, puissent l'être comme n'importe quel citoyen européen.
Ivry, le logement proposé à la famille rome la semaine dernière, hein, c'est tout récent, avec un bail renouvelable, je crois, allant jusqu'à 1 an et demi, ça permettra de facto la scolarisation des enfants, c'est ça aussi l'idée, Philippe Bouisseau.
Même durant l'existence du bidonville, la grande majorité des enfants étaient scolarisés. Les associatifs ont veillé à ce qu'il y ait eu une pression quotidienne qui a été mise sur les habitants du bidonville. Donc évidemment, un logement SAS, qu'il soit provisoire ou définitif, parce que je répète, on a encore beaucoup de familles qui vivent dans le logement pérenne aujourd'hui et qui sont sorties de la situation de précarité. Mais la scolarité, c'est la première chose à gagner. Et pour que la scolarité soit possible, il faut s'en donner les moyens. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, au niveau financier, qui est quand même une question qu'il faut un petit peu aborder. Le dispositif qu'on met en place à Ivry et qui démontre son efficacité est moins coûteux que les hébergements dans les hôtels du 115 qui, eux, ne bénéficient pas de l'accompagnement social de ce niveau. Donc il faut aussi avoir ça en tête.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
La métropole lilloise, il en est encore question avec Alain qui nous appelle depuis Tourcoing. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir.
Vous vivez sur la métropole lilloise et vous travaillez à Tourcoing.
C'est ça, moi je travaille à Tourcoing dans une MJC, une maison des jeunes et de la culture. Et on a travaillé avec quelques familles d'un terrain qui s'appelait le terrain de Châteaubriand à Tourcoing pendant quelques années. C'est des familles qui ont été expulsées deux fois en fait par deux mairies différentes, enfin deux équipes municipales différentes. Et on a travaillé avec eux à partir de 2012, suite aux grandes vagues de froid l'hiver. Enfin moi c'est une population que j'ai un peu découvert à ce moment-là. où avec plusieurs associations de Tourcoing, on s'était un peu mobilisés et très vite a germé l'idée de pouvoir proposer quelque chose à ces familles. Et ce qui arrivait assez naturellement, c'est de l'accompagnement à la scolarité, au même titre que les autres enfants qu'on accueillait après l'école, hein, donc avec un goûter, etc. Donc on s'est formé un peu comme ça sur le tas. Et puis on a été rejoint par vraiment pas mal d'associations. Il y avait déjà une belle dynamique sur le terrain. On leur a proposé pas mal d'actions, notamment d'actions culturelles autour du théâtre, autour de la musique, avec notamment des papas qui jouaient de la musique. Et surtout, nous, l'enjeu qu'on a repéré, enfin, c'est un peu ce que disait la personne précédente au téléphone, c'est aussi travailler avec les populations locales, en fait, pour que la rencontre puisse être possible, une rencontre qui soit, on va dire, la plus pacifique possible, parce que c'est jamais simple de vivre à côté de familles qui vivent dans les conditions qui ont été citées précédemment, hein, sans eau, sans électricité, etc., avec des conditions sanitaires qui sont assez difficiles, un accès à la gestion des déchets produits chaque jour qui est pas forcément évidente, puisque les sociétés de ramassage des détritus, enfin voilà, dans la mesure où ces populations-là ne payent pas forcément d'impôts, c'est pas quelque chose qui est toujours évident non plus. Donc voilà, nous on a travaillé avec pas mal de familles et on, à l'occasion de la fête des voisins, enfin une action aussi bête que la fête des voisins, on a proposé à des familles qui avait déjà des préjugés aussi sur les familles roms, d'aller inviter les familles pour organiser la fête des voisins et cuisiner ensemble. Et finalement, c'est une action qu'on a répétée pendant 2-3 ans avant l'expulsion et qui a apporté pas mal de résultats. Voilà.
Merci de ce magnifique témoignage. Sylvain Mathieu, est-ce que l'État ne se repose pas trop sur les MJC et les collectifs et les associations? Quand on entend ça, on a l'impression qu'ils font tout le boulot.
Tout le monde fait un travail qui doit être nécessairement collectif. Voilà. Nécessairement collectif, et il y a un travail de conviction à faire. Il est essentiel. Là, il y a une bonne description du travail de terrain sur le voisinage, parce que le voisinage, souvent, il proteste quand même vis-à-vis de l'installation de ces campements, qui sont illicites, il faut le rappeler, hein. Il y a des évacuations aussi qui sont des décisions de justice. Il y a des évacuations qui sont aussi pour des problèmes de sécurité et de santé, et qui sont faites. Mon propos n'est pas de dire que les évacuations, elles sont absolument pas nécessaires. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que convaincre les personnes... Les élus, ils font un travail de terrain important parce que c'est pas facile d'aller défendre ce genre de position. Hein. C'est pas spontané. Donc, il faut évidemment mouiller le maillot pour dire tout simplement que il y a une question de grande précarité, il y a une question d'accès aux droits, et finalement, quand on se rend compte, on s'aperçoit qu'on n'est pas si différent.
Aujourd'hui, quel est, selon vous, le poids de l'opinion publique, de la mobilisation citoyenne sur cette question des bidonvilles? Parce qu'on est toujours, c'est une lapalissade, entre deux élections, les municipales approchent. Est-ce que c'est plutôt de nature à inciter les pouvoirs publics à expulser, ou au contraire, à ne pas bouger? Philippe Bouissou.
Vous savez, faut, comme on dit vulgairement, être un peu droit dans ses bottes et avoir des principes et s'y tenir. On a les deux dans une population. On a à la fois des énormes élans de solidarité. Moi, je parlais tout à l'heure des associatifs sur le terrain qui nous ont énormément aidés, qui ont été précieux dans ce travail-là. Et puis, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, dans un moment où toutes nos populations sont touchées par la précarité, la crise du logement, la difficulté d'accès à l'emploi, etc., et ben, il y a aussi une concurrence des misères et des difficultés qui se jouent et sur laquelle il faut qu'on arrive à convaincre, à porter un discours politique clair et à arriver à faire en sorte de créer des solidarités là où il y a des divisions qui peuvent s'opérer. Et ça, c'est le travail que, je pense, tous les hommes politiques et femmes politiques de progrès devraient accomplir. Mais on est trop isolés aujourd'hui sur cette question-là et je le regrette.
Les déclarations, les accusations des associations vont parfois très loin. Dernière en date à Lille, un prêtre, bien connu pour son implication aux côtés des familles de Rome, le père Arthur, interpelle Emmanuel Macron en expliquant que les enfants ne sont pas respectés, condamnant des agissements inhumains, des enfants menacés de mort, dit-il. Ce à quoi le préfet répond qu'en l'occurrence, il s'agissait d'évacuer un camp situé tout près d'une voie SNCF, que les enfants risquaient à tout instant d'être percutés par un train et que les caténaires touchaient pratiquement les baraquements.
Il a démenti les aussi
oui,
propos
de père Arthur. Est-ce que Dominique Planck, c'est une situation que vous connaissez, vous pouvez admettre que les pouvoirs publics peuvent aussi faire preuve de bon sens et de responsabilité en évacuant les bidonvilles?
Ce bidonville existe depuis 3 ans. Tout d'un coup, cette excuse est utilisée. Il n'y a pas de caténaire à côté, mais il y a un risque, effectivement. La plupart des bidonvilles ne sont pas dans des endroits idéalement placés. Hein. C'est dans les délaissés des villes, dans les interstices. Donc, on est au bord de route, on est parfois près des voies ferrées. On prend prétexte parfois des risques d'incendie du fait de la promiscuité. Encore une fois, aucun collectif ne souhaite la pérennisation des bidonvilles. Tout le monde souhaite que les gens qui sont dedans puissent trouver d'autres solutions. Après, aujourd'hui, sur le bidonville dont vous avez parlé avec le père Arthur, là, de fait, aujourd'hui, on avait un bidonville, on en a quatre aujourd'hui, dans des conditions, avec des gens qui se sont réinstallés à côté d'une autre voie ferrée dans la commune d'à côté. Donc le danger, il est toujours, par rapport au train, il a été fait. D'autres qui sont... Enfin, voilà. Donc on n'a rien résolu, et là encore une fois, c'est des gens, la police nationale a fait une telle pression que le jour où la police est arrivée avec le préfet délégué pour l'égalité des chances qui était sur le terrain, il n'y avait plus personne, puisque les gens n'attendent pas le dernier jour qu'on leur casse leur habitat pour partir. Donc ils partent, aujourd'hui il faut tout reconstruire, les associations, les opérateurs associatifs mandatés par la préfecture sont en train de rechercher les gens, de savoir où ils sont, de reconstituer les réseaux. On n'a rien résolu, donc prendre prétexte de danger pour envoyer les gens dans des dangers encore plus importants, c'est pas une solution. C'est effectivement renvoyer, c'est le plumeau, c'est le taquin, comme ça a été évoqué tout à l'heure, mais on n'a rien résolu. Et la préfecture de Lille, la préfecture du Nord, a annoncé qu'elle ferait la même chose sur le deuxième plus grand terrain la semaine prochaine, et entre les deux, à Villeneuve-d'Ascq, à côté, il y a une famille qui a été pourchassée pendant 4 jours par la police nationale, puis par la police municipale. Là, ça fait 3 jours qu'elle est tranquille, donc on espère qu'au moins on va rentrer dans des procédures et qu'elle va pouvoir rester quelques mois au même endroit. Mais c'est des gens qui, tous les matins, vont travailler à 7 heures du matin. Ils traversent la métropole pour aller travailler. Et ils continuent à aller travailler alors que tous les matins, ils ne savent pas où ils vont aller dormir le soir. Alors, ça a été un peu médiatisé, cette affaire. Et du coup, le préfet dit, bon, on va essayer de trouver une solution pour cette famille. Mais pourquoi ne l'a-t-elle pas fait avant d'expulser? Ça ne sert à rien d'expulser. Encore une fois, l'expulsion ne fait, tel que c'est fait aujourd'hui, malheureusement, malgré l'instruction du 25 janvier, on est dans la même situation qu'avant. C'est-à-dire qu'on expulse d'abord et on réfléchit après comment on va faire pour aider les familles qu'on voulait. Voilà, donc il faut arrêter d'expulser, il faut travailler avec les associations comme c'est prévu dans cette instruction. On a fait des demandes de rendez-vous comme association, il y a des Roms eux-mêmes, des familles concernées qui ont demandé des rendez-vous à la préfecture, et pour l'instant c'est un mur du côté de la préfecture du Nord.
Sylvain Mathieu, sur le thème, les expulsions créent plus de problèmes et de dangers qu'elles n'en résolvent.
Alors... En l'espèce, mais on va dépasser le sujet lillois, en l'espèce, il est faux de dire que rien n'avait été prévu. Il y avait des hébergements et des éléments d'insertion qui avaient été prévus. C'est vrai qu'on peut réfléchir aux conditions d'évacuation, mais 2-3 mois avant, il se trouve que un enfant avait failli mourir du fait de la proximité des voies. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut dépasser cette confrontation-là. C'est-à-dire que, oui, il y a une évacuation, elle est possible, notamment, c'est des décisions de justice. Il faut quand même rappeler qu'il y a un état de droit et qu'il peut y avoir des décisions de justice qui sont prises demandant l'évacuation parce que les personnes, elles sont sur des terrains privés, en tous les cas, qui ne leur permet pas de s'installer. Après, il y a des vrais problèmes de sécurité. Le campement qui était sur le chemin de fer de Ceinture, il y avait un vrai problème d'évacuation au niveau des incendies. Donc, il faut dépasser ça, et effectivement, il faut créer, comme on en discute là depuis un moment, une stratégie globale. Il faut pas laisser les communes toutes seules, il faut vraiment considérer un territoire, impliquer tout le monde. Moi, je salue le travail des associations et des acteurs de terrain. Ils font un travail formidable, mais ils doivent faire partie du tour de table, d'ailleurs, y compris aussi les habitants, même des bidonvilles, oui, qui portent une partie de la solution.
Et à 19h, pratiquement 50 minutes, on va effectivement quitter le cas lillois pour retrouver Ivry-sur-Seine et cette question de Bruno. Bonsoir, Bruno.
Oui, bonsoir. Donc, je suis Bruno Chevalier, hein, du collectif interassociatif Access à Vigneux, et j'interviens également à Ivry dans le 94, 91 et 77 pour l'ALDH au sein de Rome-Europe. Je voudrais poser une question à Philippe Bouissou et surtout réagir sur ce qui s'est passé la semaine dernière à Ivry le 2 août, ce qui a été retranscrit dans le Parisien, avec l'expulsion de 2 squats très médiatisés. Une expulsion qui s'est très bien passée avec une famille qui a été donc mise à l'abri dans de très bonnes conditions à la gendarmerie dont parlait Philippe Bouissou. Et puis à côté, une expulsion où ça s'est vraiment très mal passé avec 5 familles qui ont été mis à l'abri, certes, mais pendant 3 jours par le 115, quelque part à la maison Alpho. C'est la seule information que j'ai avec les associatifs Speranza et Rome Europe. On ne sait pas où sont ces familles, elles sont sorties de mon radar. Et moi, je voudrais vraiment poser la question à Philippe Bouisson, est-ce que M. Coste, qui vraiment a été cité dans cet article du Parisien comme étant acteur prépondérant sur cette action, qui est riverain et membre du collectif d'Ivry, est-ce que M. Coste a vraiment faire le diagnostic social qui ne se fait plus maintenant par les institutions? Est-ce qu'il a vraiment pu faire un diagnostic social? Est-ce qu'il connaît le numéro de téléphone des familles? Est-ce qu'on peut les joindre? Et est-ce qu'il a fait des demandes de logement? Maintenant, les demandes de logement se font en ligne sur Internet, comme nous le faisons sur le collectif Access pour 35 familles sur Vigneux. Est-ce qu'il a vraiment pris toutes ces précautions avant de demander l'expulsion de ses voisins?
Merci Bruno. On va poser la question au maire d'Ivry-sur-Seine qui vous écoute, Philippe Bouisson, sur ces expulsions de la semaine dernière. Pourquoi certains ont été relogés dans cette ancienne gendarmerie? Pourquoi les autres non? Savez-vous alors, où ils sont et sur quels critères?
Voilà, il y a deux situations différentes là en l'espèce. Il y avait effectivement ce qu'on appelle la merguezerie qui a été vidée en début de semaine, mais c'est cette fois vidée tout à fait de manière sociale. C'est-à-dire que le couple avec les 6 enfants qui vivaient dans ce petit interstice de l'espace urbain ont pu intégrer la gendarmerie et rentrer dans ce sas d'accompagnement. Et puis il y a l'autre terrain dont vous parlez, qui est le terrain Villard, où là la ville a été amenée à demander l'expulsion, mais après 2 ans de travail social avec des opérateurs sociaux, avec des maraudes qui ont été faites sur le terrain, et on avait, il faut bien le dire, là une population qui n'a pas saisi les opportunités qui lui étaient offertes. Et il y a un projet d'aménagement urbain sur ce territoire, donc nous on estime, mais sans doute les associatifs peuvent-ils avoir un avis différent sur le sujet, on estime avoir été au bout de ce qu'on pouvait faire pour essayer de sortir les familles de cette situation autrement que par un hébergement de 3 jours au 115, mais on n'y est pas arrivé, c'est un échec, effectivement.
Sylvain Mathieu, peut-être sur les critères de relogement?
Oui, et puis je voudrais pas que la question des évacuations masque le travail qui est fait d'insertion et qui permet réellement de sortir un certain nombre de personnes. Je disais tout à l'heure, ça marche. À Strasbourg, il n'y a pratiquement plus aucun bidonville. Il y avait 200 personnes en 2012, il n'y en a pratiquement plus aujourd'hui. C'est un travail de ça, c'est un travail d'insertion qui a été fait. À Toulouse, il y a certes des évacuations, mais elles sont préparées des mois à l'avance avec des solutions adaptées. Et il y a eu une baisse de plus de 60% des personnes qui sont dans les campements. Et il y a encore une fois, il y a un travail d'insertion économique, d'accès au logement. Il y a du côté de Nantes des conférences citoyennes. Dans le Nord, dont on parlait tout à l'heure, il faut rappeler que ce travail de conviction, il fonctionne aussi. Il y avait un maire qui avait déposé du lisier il y a 3 ans pour empêcher l'avenue des personnes. Aujourd'hui, il accepte un sas sur sa commune. Donc, il faut voir quand même ce travail qui se fait peu à peu pour qu'il y ait une gestion, qu'il y ait un travail de rapprochement, l'accès au droit, qu'on sorte de ces situations indignes. Et nécessairement, il faut avoir cette approche collective et partenariale. Et la question de l'évacuation ne doit pas masquer le travail d'insertion.
Pour un peu mieux comprendre le fond du problème de ces populations et de ces migrations, une question de Jeanne qui nous appelle d'Angers. Bonsoir Jeanne.
Oui, bonsoir. Je posais la question, pourquoi il y a tant de Roms en France, sachant que je suis allée en Roumanie il y a, je dirais, dans les années 94-95, où j'ai toujours ressenti une aversion des Roumains vis-à-vis des Roms. Notamment, j'ai rencontré une jeune femme, j'étais à Sibiu à cette époque-là, je l'ai croisée, je ne l'ai pas rencontrée, et une petite Rome est venue vers elle et lui a tendu la main. Cette personne a dit « Hitler n'a pas fait son travail jusqu'au bout ». Et je sentais, moi, chaque fois qu'il y avait une aversion vis-à-vis des
persécutés en Roumanie, et votre question, c'est de savoir pourquoi ces populations viennent en France. J'ai une question subsidiaire arrivée sur franceinter.fr, la page de l'émission de Thierry qui nous écrit de Lyon. À l'intérieur de l'Union européenne, comment se répartit l'accueil des Roms, Roumains et Bulgares? Est-ce que vous pouvez faire un petit condensé de réponse, Sylvain Mathieu?
La France, elle accueille
peu de personnes venues de Roumanie et de Bulgarie. Si on fait le compte, il y a plus de personnes en Espagne, plus en Allemagne, plus en Italie. Donc, il faut pas non plus penser qu'il y a une sorte de flux extrêmement important qui vient notamment vers la France. Après, ça pose la question de la place de l'Europe dans la gestion du sujet. Et ça, c'est moi, je pense que l'Europe, elle doit faire mieux et faire différemment. C'est-à-dire qu'on appelle beaucoup à ce qu'il puisse y avoir le soutien des politiques nationales avec notamment des fonds européens. C'est important pour les collectivités territoriales. Ça sert de levier. Il y a des crédits nationaux, mais des crédits européens permettent aussi de faire levier pour les actions d'insertion. Et puis, il y a un débat aussi sur ce qu'on appelle les approches ethniques. La France n'est pas du tout sur cette approche ethnique. Elle est sur une approche de lutte contre la précarité. Et dans cet aspect-là, il faut évidemment renforcer toutes les démarches qui luttent contre la pauvreté. Et l'Europe, elle a un rôle à jouer à travers les fonds.
Il nous reste 2 minutes. Je voudrais pas qu'on finisse l'émission sans évoquer la Commission nationale de suivi de la résorption des bidonvilles qui s'est installée fin juin avec pour objectif de donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites. Alors il y a les associations, les collectivités locales, les préfectures, les parlementaires. 8 ministres sont impliqués. 3 millions d'euros annuels prévus. Est-ce que Dominique Planck, vous saluez l'initiative et surtout, est-ce que vous y croyez ?
Oui, non, j'ai déjà dit, le milieu, le réseau associatif, avec Rome Europe notamment, avait beaucoup salué cette instruction et la mise en place de ce comité de suivi qui doit se réunir la prochaine fois en octobre. La question, c'est de savoir comment ça se traduit concrètement dans chacun des départements, parce qu'on se rend compte que selon les départements, la mise en œuvre est différente. Je pense qu'effectivement, c'est aussi le rôle de la DIAL d'harmoniser ce suivi, cette mise en place de cette instruction, qui encore une fois est excellente, hein, puisqu'elle prend en compte l'ensemble des problématiques, avec notamment toutes les problématiques de droit commun. Comme ça a été rappelé, c'est pas question de faire la demande des collectifs, c'est que toutes les politiques de droit commun puissent s'appliquer vis-à-vis des populations vivant en bidonville. Et là, encore une fois, on reste encore, même malgré, je vous dis, les déceptions et les craintes que nous pouvons avoir, nous, dans la métropole lilloise et dans le Nord en général, sur l'idée que cette instruction et ce comité de suivi est une très bonne chose. Maintenant, le résultat n'est pas encore en place chez nous.
Philippe Bouissou.
Oui, moi, deux mots simplement. Le premier, c'est que l'auditrice a tout à fait raison. Il y a des pays où ces populations sont victimes de discrimination. Et ici, en France, elles ont, de mon point de vue, un statut de réfugié. Le deuxième truc, c'est concernant les fonds européens qui sont immobilisables en ce moment, je ne sais pas si le terme est correct, et qui sont bloqués à la région sur la période 2014-2020, et on les aura en 2019, ce qui fait que toutes les organisations, toutes les associations qui aujourd'hui travaillent sur ces sujets risquent d'être en cessation de paiement et en très grande difficulté. Donc il y a urgence à débloquer ces fonds européens pour qu'ils ne repartent pas à l'Europe, comme ça a été déjà le cas en 2015.
5 secondes et en conclusion, Sylvain Mathieu, cet argent, pourquoi faire et quand ?
Cet argent, il est là pour appuyer l'instruction ministérielle. C'est la première fois qu'il y a une instruction qui dit l'objectif, c'est de résorber complètement les campements illicites et les bidonvilles. C'est la première fois. Cet objectif-là, il est posé et c'est la responsabilité de tous.
Je vous remercie tous les trois de nous avoir, par vos témoignages et puis vos réponses, éclairées sur la réalité des campements Rome aujourd'hui et montré que rien n'était une fatalité et qu'il existait des solutions. Je rappelle, Sylvain Mathieu, que vous êtes depuis 4 ans le délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès au logement. Philippe Bouissou, maire communiste d'Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Et merci à Dominique Planck d'avoir participé à l'émission. Dominique Planck du collectif Solidarité Rome de Lille Métropole. On referme ce téléphone sonne réalisé ce soir par Clément Nouguier, accompagné à la technique de Bruno Poncelet et Grégory Wallon. Merci à Justine Villeray, Caroline Baudry et Pierre Gauffre qui m'ont aidé à préparer l'émission. Toute l'équipe vous attend demain 19h15 pour parcourir la France des festivals, les énormes, les tout petits, avec à chaque fois beaucoup de mérite pour les organisateurs et les bénévoles. Je vous souhaite une belle soirée.